Tout de suite, émission, je les vois en congolais avec Jean-Claude. Nous sommes passés à la présentation.
Bonsoir, budget 2009. La dépréciation actuelle du franc congolais perturbe son exécution. Le budget actuel, estimé à environ 5 milliards de dollars, a été calculé sur un taux de change de 585 francs. Ce taux est à près de 830 francs congolais le dollar. Et d'après le ministre du budget du gouvernement central, les recettes en monnaie nationale sont mobilisées à 90%, mais à cause de la dépréciation du franc congolais, elles ne correspondent qu'aux deux tiers de leur valeur réelle. Comment expliquer cette perturbation? Quelle solution pour stabiliser la situation financière du pays? C'est le thème de cette émission. Et pour le débat, nous recevons pour vous Maurice Cassindo, député national de l'Union nationale des démocrates fédéralistes, UNADEF. C'est un parti politique membre de l'ANP. Jean-Lucien Boussa, député national MLC et vice-président de la Commission économique et financière à l'Assemblée nationale. Le MLC, vous le savez, c'est un parti de l'opposition. Et le professeur Moussenga Chimpangila, professeur d'économie à l'Université de Kinshasa, il est analyste économique. À tous, bienvenue dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Budget 2009, la dépréciation actuelle du franc congolais perturbe son exécution. 5 milliards de dollars, c'est le budget actuel projeté sur base d'un taux de change de 585 francs congolais le dollar. Ce taux est, comme vous le savez, à 830 francs congolais aujourd'hui à Kinshasa. Le point sur les perturbations dans l'exécution du budget 2009 avec notre consoeur Kelly Koudé.
Selon le ministre de budget contacté par Radio Okapi, avec la crise financière internationale, la RDC connaît une baisse des recettes essentiellement provoquée par la chute des exportations minières. Des entreprises faisant moins de bénéfices du fait de la crise, cela entraîne comme conséquence la baisse des recettes fiscales. À cette crise financière s'ajoute la dépréciation de la monnaie congolaise face au dollar, avec pour conséquence la baisse du pouvoir d'achat de la population. Pour illustrer la baisse des recettes publiques, notons que la RDC, qui attendait 91,5 milliards de francs congolais à titre de recettes pour le mois de janvier, n'a encaissé que 90 milliards, soit 1 milliard et demi de francs de moins que les prévisions. Pour le mois de février, on attendait 90,5 milliards. Les comptes révèlent 2 milliards et demi de francs en moins, soit 88 milliards de recettes réalisées. Pour le mois de mars, les 150 milliards assignés n'ont pas été atteints, affirme le ministre Lokola. Bref, l'État ne réalise plus ses prévisions. Pour le ministre de budget, le niveau de réalisation est très bon, mais ces recettes n'ont plus la valeur réelle attendue. Cela veut dire qu'il y a baisse du fait que le taux d'échange en cours dépasse celui prévu dans le budget 2009. Il faut signaler que lors de l'adoption du budget 2009, un dollar américain valait 585 francs congolais. Et à ce jour, un dollar américain se change à près de 830 francs congolais. Michel Lokola pense que si cette baisse de recettes continue, la possibilité d'une éventuelle révision des prévisions budgétaires de 2009 ne sera pas exclue. Pour maximiser les recettes, l'État vient désormais d'opter pour la rétention de l'impôt sur les salaires du personnel politique, communément appelé impôt sur le revenu professionnel, IPR. Une opération qui a permis de ponctionner plus d'un million de dollars au mois de mars sur les salaires des politiciens.
Voilà, merci. Kéline Côté, Jean-Lucien Boussa, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui est avancé jusque-là comme explication sur la perturbation justement de l'exécution du budget 2009?
Merci d'abord pour l'invitation, mais je voudrais d'abord rappeler à l'opinion et au gouvernement que lorsque le même gouvernement vient présenter par les premiers ministres son budget à l'Assemblée nationale, deux grandes observations lui sont faites. D'abord, le cadrage macroéconomique est jugé irréaliste par l'ensemble des députés. Rappelez-vous que pour ne prendre que l'indicateur taux d'échange, à cette époque, le dollar sur le marché d'échange connu par les Congolais, équivalait déjà à 625 francs congolais le dollar. Le gouvernement nous apporte une proposition d'un dollar égal à 560 francs congolais. Nous avons posé la question au Premier ministre, mais quel était le socle sur lequel reposaient tes prévisions de cadrage macroéconomique? Parce que comme vous savez, les éléments du cadrage macroéconomique, notamment la croissance du produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse nationale, le taux d'échange, les prévisions du taux d'inflation, etc., sont des paramètres essentiels dans l'élaboration du budget si ces paramètres sont irréalistes, sont utopistes. À partir de ce moment-là, le budget n'est monté que sur du sable mouvant. Nous avons fait la remarque au gouvernement. La réponse du gouvernement, c'était laquelle? C'était que le gouvernement va avoir une politique volontariste pour permettre de pouvoir maîtriser les taux de change au niveau prévu dans le budget. 1,585 $ congolais. Deuxième question fondamentale que nous avons posée au gouvernement, au premier ministre et au ministre du budget. La crise financière. Le gouvernement n'avait pas proposé à l'époque ou n'avait pas pris en considération l'impact de la crise financière internationale.
Vous voulez dire que vous n'êtes pas surpris par la situation actuelle?
Nous avons prédit cela lors de l'Assemblée, lors des plénières, y compris à la Commission économique et financière. Le premier ministre nous a indiqué que la crise financière internationale n'impactait pas considérablement à la fois sur la croissance économique, mais en même temps sur le niveau des recettes.
On va, Jean-Lucien Boussa, permettez qu'on pose la même question à Maurice Cassindo. Maurice Cassindo, bonsoir.
Bonsoir, merci.
Voilà, Jean-Lucien Boussa dit que, en fait, la situation actuelle, eux, ils ne sont pas surpris au niveau de l'opposition, si on peut le dire,
au niveau des élus.
Oui, évidemment, toi et les collègues a dans sa grande partie raison. Et évidemment, le gouvernement a écouté à l'Assemblée nationale qui a émis ses inquiétudes face à la dépréciation quant au taux budgétaire qui a été voté, comme il est dit, à 1985. Mais alors, le gouvernement a fait des rassurances au niveau du cadrage macroéconomique, ainsi qu'à l'accompagnement sérieux d'une chaîne de dépenses qui devrait être suivie. Mais dans ce cas ici, il y a exagérément cette prise de grande vitesse de dépréciation. Cela engage le gouvernement à ce qu'il puisse être tellement attentif afin que de prendre dans l'exécution budgétaire les paliers qui sont dans ces cadres plus urgents et abandonnés d'autres. Parce qu'à la lueur où vont les choses, évidemment, nous nous retrouvons peut-être à 1000 avant la fin de l'exercice budgétaire. Ce qu'il faut en soi aujourd'hui, évidemment, le gouvernement a beaucoup de problèmes. Nous pensons que les chaînes de dépenses doivent être sérieusement suivies et appliquées avec une grande méthodologie afin de faire que les chaînes de dépenses soient les plus rationnelles que possible. Les questions qui sont posées par les collègues sont suffisamment fondées. Mais nous avions vu la ferme résolution du gouvernement de résister face à cette inflation. Et nous attendons évidemment, le ministre du budget était en train de prévoir un plan de cet encadrement des chaînes de dépenses.
Oui, je vous entends, vous insistez sur l'encadrage de la chaîne des dépenses, donc vous voulez dire qu'il a manqué de rigueur dans les dépenses publiques, dans le chef du gouvernement congolais, c'est ça?
Évidemment, face à cette perte dans les attentes des recettes par rapport au mois de janvier, au mois de février et au mois de mars, évidemment, on est en train d'assister à une baisse des recettes, évidemment, qui peuvent aller de plus de 3 à 4 milliards, ça va être compliqué. Moi, je pense que le gouvernement, s'il veut résister face à cette inflation, le gouvernement doit choisir les paliers dans l'exécution des dépenses, les chaînes qui sont vraiment urgentes par rapport à cette crise économique.
Merci, on va y arriver parce qu'on parlera des pistes de solutions pour stabiliser cette situation. Nous accueillons le professeur Moussenga Tchipangila. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Oui, professeur, comment vous expliquez la situation actuelle au niveau de perturbation du budget 2009 dans son exécution?
Merci beaucoup. J'ai entendu ceux qui sont aux opérations. Ils ont vu ce qui se passe. Ils disent ce qui se passe, mais en réalité, vous savez de quel mot on peut mourir, ou bien on ne sait pas exactement de quoi on souffre, et on ne sait pas comment le faire, et alors on meurt, ou bien on sait ce dont on souffre, et on ne sait pas comment résoudre les problèmes, et on en meurt aussi.
Oui. Essayez d'être concret maintenant, professeur.
Oui.
Essayez d'être concret maintenant.
Oui, maintenant, on sait ce qui se passe, on sait comment trouver la solution, et puis on ne veut pas le faire. La réalité est que tous ces budgets qui ont été retenus,
oui.
Il y a eu des impasses. Et comment ces impasses ont-ils été financées? C'est à partir de la planche à billets. Mais cette émission supplémentaire correspondait à quoi? Nous avons beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'opérateurs économiques dans notre pays qui n'appartiennent pas à notre pays, mais qui sont plutôt dans notre pays. Alors, ils observent ça, ils suivent à la loupe, et dès qu'ils voient un peu de décalage, et ils suivent le cours d'échange sur le marché congolais, ne peut pas être maîtrisé dans les situations actuelles par le gouvernement. Vous entendez qu'ils ont décidé 585 francs par dollar, et maintenant nous sommes à 835. J'en vois même à certains endroits 850, comme chez les entreprises de télécommunications.
Oui, professeur, vous dites que le cours du dollar ne peut pas être maîtrisé par le gouvernement congolais. Est-ce que Jean-Lucien Boussa, vous êtes d'accord avec le professeur Chipanga?
Non, mais ça, c'est considérer qu'on a affaire à un gouvernement irresponsable. Moi, je voudrais simplement dire ceci. Le dérapage du franc congolais s'explique par deux politiques essentielles, même trois. La première, c'est notre politique budgétaire. Vous aurez remarqué, d'une part, qu'au niveau des recettes, les recettes n'ont pas été mobilisées comme il se doit sur le plan interne. Au niveau extérieur, les recettes promis, parce qu'on nous a dit par le ministre du budget, le premier ministre lors de la présentation de son budget à l'Assemblée nationale, que toute la politique en matière d'échange va être reposée sur le bonus du contrat chinois, qui était estimé à l'époque à plus de 300 millions de dollars américains et qui devait tomber la semaine qui suivait la promulgation du budget. Aujourd'hui, le gouvernement doit nous dire, parce que c'est lui qui nous a confirmé de manière insistante qu'il y aura les bonus du contrat chinois. Donc de ce côté-là, sur le plan de recettes, il n'y a pas une mobilisation suffisante des recettes publiques, y compris les recettes extérieures. Deuxième élément, c'est la politique de rationalisation de la dépense publique. Au niveau de la dépense publique, nous avons assisté et nous avons dénoncé à maintes reprises que la plupart des dépenses étaient des dépenses qui n'avaient rien à voir avec l'activité économique,
telles que
les dépenses politiques ont pris le dessus sous les dépenses d'investissement, même d'investissement public, n'est-ce pas? Le secteur du portefeuille de l'État n'a pas été orienté de manière à tenir compte de la crise financière internationale. Donc là-dessus aussi, il y a eu des problèmes. Troisième élément, donc, et puis le professeur l'a dit, les excédents des dépenses publiques ont été financés par le recours à la planche à billets. Or, le statut de la Banque centrale du Congo interdit à la Banque centrale de pouvoir faire des avances à l'État. Et là-dessus, nous avons assisté à une politique au niveau de la banque, une politique monétaire antinomique, où d'une part, vous déversez de l'argent sans contrepartie en termes de production, mais en même temps, vous dites, nous élevons les taux d'intérêt pour permettre de pouvoir attirer les gens vers l'épargne. Donc là-dessus, il y a eu des politiques contradictoires, et c'est de la responsabilité du gouvernement. Donc aujourd'hui, qu'on en arrive là, c'est la conséquence logique d'une gestion laxiste des budgets, d'une mauvaise gestion de la politique monétaire, mais aussi d'une mauvaise gestion au niveau des changes.
Mais est-ce que de là, on peut dire, comme l'a dit le professeur Moussenga Tshipangila, que le gouvernement ne saura pas maîtriser ce cours d'échange?
Non, je ne pense pas que nous soyons ici en train de nous résigner. Nous faisons la politique parce que nous venons avec l'ambition de pouvoir apporter des solutions au problème des non-citoyens, des non-concitoyens, et au problème de notre pays. Considérer que le gouvernement ne peut pas trouver de réponse, un gouvernement responsable ne peut pas être en mesure de trouver des réponses, je crois que c'est une résignation.
Oui.
Le mouvement de libération du Congo ne sait, mon parti politique,
oui,
ne s'inscrit pas dans la dynamique de la résignation. Nous considérons que aujourd'hui, cher ami, vous savez que votre revenu, votre salaire là, que vous touchez aujourd'hui, a été réduit à cause de l'inflation, à plus de 40%. Ça veut dire que si vous avez...
Vous parlez du pouvoir d'achat.
Du pouvoir d'achat. Non, votre revenu nominal aujourd'hui, il ne vaut que parce qu'il est nominal. Mais la réalité des marchés implique que ce que vous achetiez au mois de janvier ou au 31 décembre 2008, vous ne pouvez l'acheter aujourd'hui que moins 40%. C'est grave comme situation économique. Malheureusement, vous avez un gouvernement qui s'est complet dans cette gestion de l'accès et qui ne propose pas des vraies solutions. Lorsqu'on vous dit, lorsqu'on vous dit que la solution passe par les impôts des émoluments du personnel.
On va y arriver, justement. On va y arriver, Jean-Lucien.
Je vous en prie.
D'abord, parole à Maurice Cassindo.
Oui, allô, en ligne.
Ouais, vous êtes en ligne.
Le gouvernement n'est pas incapable. Parce que vous savez, lorsqu'on est un gouvernement, on est responsable sur la gestion.
C'est comme si vous étiez sur une rue.
Il y a des collègues qui oublient certaines lignes de conduite. Parce qu'à un certain moment, lorsqu'on parle évidemment de la dépréciation monétaire, il y a le secteur qui n'ont été suffisamment touché ici chez nous et le secteur qui a porté un hausse de soulagement à l'accomplissement de ce budget national, notamment le secteur minier. Le secteur minier est tellement frappé alors qu'il contribue à plus de 22% au budget national. Mais maintenant que les collègues qui parlent et aussi ne peuvent pas me dire aujourd'hui, comme le secteur minier est touché, ils ont encore d'autres solutions parce qu'évidemment, ils savent. L'État est en train de se rechercher. Nous n'avons pas d'autres secteurs, évidemment, qui amènent beaucoup d'argent. Le professeur a balbutié en disant il y a les opérateurs économiques qui ne sont pas ici, qui ne sont pas originaux et qui font ceci, évidemment, nous n'avons pas assez de mêmes. Non. Tous ces opérateurs économiques contribuent, n'est-ce pas, à l'accomplissement à ressources du budget. Mais dès lors que nous devons lancer un défi en ce qui concerne la carte, vous voyez, si grandiose dans le secteur minier, le gouvernement est en train de se débrouiller, en fait, tant bien que mal, pour résister face à cette perte énorme que nous déplorons tous. Ce n'est pas pour dire que non, c'est un gouvernement qui ne saura faire quoi que ce soit, mais parce que le gouvernement, là, existe, il est en train de trouver, tant bien que mal, des solutions en matière de l'application et de voir comment le budget va être réalisé et par rapport aux ressources. Voilà pourquoi, moi, quand j'ai fait ma première intervention, je m'en parlais en ce temps, parce que le budget, les ressources, quant à son affectation, devrait avoir le principe d'utilité et d'urgence. Donc, on devrait voir le secteur qui est plus urgent, dans lequel on devra affecter ces ressources budgétaires que l'on devra découvrir par-ci par-là. Mais sinon, le gouvernement, dans sa politique, il est en train de se débrouiller. Évidemment, pour mettre d'abord à l'aise, en ce qui concerne la dévaluation, la dépréciation monétaire, nous sommes en train de voir certaines réalisations, évidemment, parce que même le FMI était ici à Kinshasa, et le FMI s'est rendu compte, en matière de bonne gouvernance, le gouvernement est en train de se débrouiller convenablement.
Mais vous parlez, évidemment, vous croyez dans ce gouvernement, vous pensez qu'il sera en mesure de relever le défi. Mais tout à l'heure, vous avez dit qu'il y avait un problème avec les dépenses pour lesquelles vous demandiez un peu plus de rationalité de la part du gouvernement. Mais puisque vous insistez, Maurice Cassindo, sur le secteur minier, mais on peut se poser une question, Maurice Cassindo. Qu'est-ce que le gouvernement a fait des recettes engrangées ou collectées quand les cours étaient encore élevés?
Pardon?
Parce qu'aujourd'hui, vous décriez, vous dites que le secteur minier est en crise.
Ouais,
mais si on peut dire le cuivre qui est, je sais pas, presque 3000, qui remonte vers 4000, mais il y a une époque où la tonne de cuivre était à 9000 $, le diamant à peu près à 24 $ le carat. Qu'est-ce que la RDC a fait de toutes ces recettes? Parce qu'aujourd'hui, sans que le matelas divise à la banque centrale, il n'y a presque plus rien.
Non, évidemment, vous avez tout même senti que le gouvernement a tenu quand même l'équilibre de la dépréciation monétaire. Nous avions, ensemble avec le gouvernement, l'Assemblée nationale, nous avions assisté à cette stabilité de la dépréciation monétaire et le budget a été exécuté et pratiquement à plus de 90%. Le gouvernement est venu trouver à l'Assemblée nationale et cette stabilité a permis au gouvernement d'être dans une bonne route sur le compromis avec le Fonds monétaire international qui parlait du point d'achèvement. Parce que ce point d'achèvement, ce sont des conditions posées au gouvernement, afin que le gouvernement puisse s'y atteler et arriver à la fin. Ça nous a d'abord conduit Le taux du fric qui était élevé, comme vous l'avez dit, à plus de 7 000 la tonne, ce taux nous a conduit à stabiliser l'exécution du budget et tout à stabiliser la dépréciation monétaire. Par rapport à ces deux années, vous pouvez voir que même si le franc congolais a dévalué, il dévalue quand même à un rythme acceptable et accepté par rapport à la chute du prix de ce pays.
On va demander au professeur Moussenga Chipangila d'intervenir, mais en attendant, nous vous demandons, Maurice Cassino, d'essayer de vous éloigner. Il y a beaucoup de bruit autour de vous. Essayez d'aller dans un coin plus calme pour améliorer la qualité de votre son. Professeur Moussenga Chipangila.
Merci, je suis très satisfait d'entendre que les autres partagent exactement le même point de vue que moi en le disant autrement. Si le gouvernement arrête le budget, qui ne sait pas contrôler, si il ne sait pas recouvrer les créances, est-ce que nous pouvons dire que le gouvernement a la possibilité de réaliser ce qu'il décide? Ça, c'est un point. Et puis, voyons un peu du côté de nos représentants au Parlement, au Sénat et autres. Ils se débattent du matin au soir pour améliorer leur situation individuelle. Et alors, quand ça s'améliore, ça s'améliore sur base de quelles recettes? C'est ça que nous voyons. Voilà pourquoi les politiciens parlent. Ils disent ce qu'ils peuvent dire. Mais nous le voyons autrement. Nous le voyons autrement. Ce n'est pas exactement la même chose. Nous savons très bien qu'il faut un rapport fixe entre les recettes de l'État qui sont recouvrées et les dépenses qui sont faites. Et puis, on budgétise, nous sommes d'accord. Mais si le budget ne peut pas être exécuté, le budget arrive en retard. Le plan, le ministère du plan, ne joue pas son propre rôle pour arrêter tous les plans qui peuvent conduire au développement. On donne, on s'endette à l'étranger, les étrangers nous donnent des aides ainsi de suite pour payer les salaires, pour payer les politiciens en place ainsi de suite. Les parlementaires et les sénateurs qui ont demandé et réussi à obtenir leur augmentation en dehors de toutes les proportions, en dehors de toute la production et toute la richesse du pays. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce que je veux dire, encore en quelque sorte, est que en regardant le cours d'échange vers la fin du mois, quand les opérateurs économiques étrangers doivent payer leur personnel, le cours d'échange change. Et quand on est en cours du mois, le cours d'échange se comporte autrement. Et tout ça, est-ce que nos parlementaires, nos représentants au Parlement et au Sénat ne voient pas tout ça?
Merci, professeur. Il y a des auditeurs qui nous écrivent. Vous allez à Dubango de Niekese à Mahagi, province orientale, veut savoir à quoi est due cette dépréciation du franc congolais par rapport au dollar. Peut-être Jean-Lucien Boussa, très rapidement, vous allez lui répondre.
Non, mais la dépréciation très rapidement est due à trois éléments. Le premier élément, c'est que sur le plan de la balance extérieure, le devise tel que nous les avions grâce à nos exportations ne rentre pas suffisamment dans le pays d'une part. D'autre, parce qu'il n'y a pas de mécanisme de substitution aux secteurs qui ont connu la crise, comme les secteurs miniers. Le gouvernement aurait pu développer d'autres secteurs qui pourraient faire le palliatif des secteurs en crise. Deuxième élément, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la politique budgétaire laxiste du gouvernement, ou des excédents budgétaires plutôt, ou des dépenses excédentaires sont financés, là nous sommes dans la politique monétaire, par le recours à la planche à billets. Troisième élément, c'est une mauvaise politique de dépenses, avec la mauvaise qualité de la dépense publique. Lorsque nous avons dénoncé que le budget de la présidence était multiplié par deux alors que le budget de l'État ne connaissait pas un accroissement substantiel. Lorsque nous avons dit, mais pourquoi le Premier ministre octroyait-il un budget qui représentait plus de 18 milliards de francs congolais, alors que le Premier ministre Guizeng en avait un budget de 7 milliards de francs congolais? On ne nous a pas compris. Ce sont tous ces éléments, des dépenses politiques inutiles qui sont à la base de ces dérapages du franc congolais, entre autres.
Merci. Budget 2009, la déprécation actuelle du franc congolais perturbe son exécution. Quelle solution pour stabiliser la situation financière du pays? Restez avec nous pour la suite de ce débat et c'est juste après ce rappel de nos contacts.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Quelle solution pour stabiliser la situation financière actuelle du pays? Une politique monétaire viable, un système de production et une réserve importante en devises étrangères sont là les trois facteurs qu'il faut prendre en compte pour stabiliser la situation financière de la RDC. Ces propos sont de Jean-Claude Molipé, ministre honoraire du budget des années 2006 à 2007. Pour lui, la monnaie est le reflet du niveau de l'économie d'un pays donné. On écoute Jean-Claude Molipé, joint au téléphone par Guy Maté.
Comme vous savez, nous avons des instruments de la politique économique que nous devons mettre en place. Et pour ce cas d'espèce, nous avons ce que nous appelons la politique monétaire. Et cet instrument-là est piloté par la Banque centrale. Autrement dit, la Banque centrale a le devoir institutionnel de veiller constamment à la stabilité du niveau général de prix par une bonne politique monétaire qui doit fournir suffisamment de la monnaie à l'économie pour permettre l'expansion des affaires, mais sans entraîner de dérapage inflationniste. C'est pourquoi, dans une économie donnée, si l'économie n'a pas ce qu'on appelle la production, c'est-à-dire l'économie réelle, vous ne pouvez vous attendre à la stabilité de prix ou à la stabilité de la monnaie. Un autre facteur, c'est parce qu'une économie est protégée par les devises. Il faut qu'il y ait des réserves de devises suffisantes au niveau de la Banque centrale. Et vous pouvez constituer ça, par exemple, dans le cas des exportations. Vous exportez, au retour, vous avez des devises qui entrent dans notre économie.
Voilà, c'était là le professeur, Jean-Claude Molipé, c'était un ministre honoraire du budget. Maurice Cassino, est-ce que vous êtes d'accord avec ce ministre honoraire, Jean-Claude Molipé, ou vous avez d'autres pistes de solutions?
Bon, bah évidemment, je l'ai suivi attentivement, il est tombé pratiquement dans ma même ligne. Et évidemment, parce que actuellement, personne ne sait dire qu'est-ce que nous exportons en fait. Parce que si on doit avoir des devises en banque, ça c'est très bien, ce sont les principes et les économiques, mais il faut se poser la question, qu'est-ce que nous exportons pour avoir assez de devises dans notre banque? Évidemment, ça c'est parmi les grandes préoccupations. Ça nous préoccupe tous, mais je voulais souligner quelque chose, je suis le propos du professeur quand il dit le député ne parle que pour eux-mêmes. Moi, je pense que le professeur suit attentivement beaucoup de débats à l'Assemblée nationale, s'ils ne sont pas fixés sur nous, mais s'ils sont fixés sur l'ensemble de la population congolaise que nous représentons. D'ailleurs, beaucoup d'États ont été posés à l'Assemblée nationale quant à la vie des professeurs, sur toute la détendue de la République, mais quand ils disent que nous parlons pour nous-mêmes, moi, ça ne se trouve pas vrai, parce que lorsque nous débattons des questions d'intérêt national, oui, nous parlons pour la nation et nous ne parlons pas pour nous-mêmes. Est-ce qu'il a déjà suivi un débat là où le débat est centré sur nous-mêmes? Non.
Oui, mais quand vous parlez pour vous-même, c'est un huis clos. Quand vous parlez pour vous-même, c'est un huis clos.
Ah oui, évidemment, il y a des questions qui sont traitées à huis clos, mais qui ne sont pas essentiellement, parce que même le règlement intérieur parle d'un traitement des questions à huis clos, non seulement des questions qui nous concernent. Je vous rappelle par exemple la restitution du rapport de Kaemba, du cas Kaemba, a été d'abord auditionné à huis clos. Ce n'était pas une question d'intérêt qui regardait les députés, mais une question d'intérêt national. Oui. Lorsque l'Assemblée nationale trouve que cette question ne doit pas être à la portée de la population, oui, du public, et c'est là peut-être dans la crainte d'entraver la bonne marche du gouvernement, cette question doit être traitée à huis clos, non seulement pour les intérêts des députés.
Merci. Professeur Moussouna Chipangila, sur les pistes de solution.
Oui, moi je pense en bref que nous n'aimons pas notre pays. Nous, les politiciens, et nous n'aimons pas notre pays. Nous sommes des traîtres. Nous aimons notre pays, oui, nous devons élaborer des plans appropriés, des budgets qu'il faut faire exécuter, ainsi de suite, et les respecter, nous y conformer, et ne pas aller au-delà. Par exemple, le parlementaire qui parle, il veut s'aligner sur la rémunération des parlementaires belges, français ou autres, alors que notre situation n'est pas la même, ainsi de suite. Donc, nous n'aimons pas notre pays.
Oui.
Voilà la réalité.
Oui, mais justement, par rapport à la réalité, professeur, que faire pour stabiliser la situation actuelle?
Il faut d'abord, pour montrer que nous aimons notre pays, élaborer des budgets réalistes, élaborer des plans de développement auxquels il faut se soumettre avec rigueur, et puis ne pas divaguer, tanguer ça et là, aller à gauche, à droite, pour donner satisfaction à des imprévus qui viennent perturber tous les plans et tous les budgets qui étaient prévus. Voilà ce que nous devons faire. Le développement d'un pays ne se fait que sur les plans soigneusement élaborés. Les plans, c'est généralement à long terme et à court terme pour des périodes annuelles ou trimestrielles. Ce sont des budgets et qu'on se conforme à ce budget-là et qu'on sache exactement où nous allons en arriver.
Merci.
Et qu'on ne se mette pas à émettre la monnaie. Est-ce qu'il existe encore des bons du trésor, le certificat de dépôt, ça a vu le jour, où est-ce que ça trouve la dette nationale, où est-ce que ça se trouve pour financer le développement de manière non inflationniste, où est-ce que ça se trouve?
Ça
ne se trouve nulle part.
Voilà. Jean-Lucien Boussa, vous êtes du MLC. Si le MLC était au pouvoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez proposer comme piste de solution aujourd'hui?
Vous permettez d'abord que je réponde rapidement au professeur, quelques mises au point.
Allez-y.
D'abord, je voudrais demander au professeur de lire le budget 2008. J'ai l'impression qu'il n'a pas lu le budget 2008. Dans le budget 2008, s'agissant des rémunérations du membre de l'Assemblée nationale du Sénat, il a été dit qu'aucune augmentation ne soit faite dans le pool de rémunération des députés et des sénateurs. Ça, c'est des 1. Deuxième élément, s'il vous plaît. Deuxième élément, professeur. Professeur, ne parle pas.
Attendez, professeur.
Donc, je voudrais rappeler au prof qui doit lire son budget 2008. Deuxièmement, le professeur.
Permettez, professeur. Jean-Lucien, la parole.
Le professeur qui a travaillé dans plusieurs ministères sous la Deuxième République devra savoir que nous ne sommes pas adeptes du nivellement vers le bas. Les salaires des professeurs ont été améliorés. D'ailleurs, il y a un débat à l'université entre les salaires des professeurs et les administratifs.
Les administratifs de combien?
C'est plus de 1000 dollars. Ouais. Les administratifs sont restés au niveau le plus bas. Les professeurs n'aiment pas qu'il y ait une augmentation au niveau des administratifs.
Allez-y.
Troisième élément, mise au point.
Ouais.
Professeur,
oui, je vous protège.
Troisième mise au point en direction du professeur.
Oui.
Les aides étrangères n'ont jamais couvert les rémunérations. C'est une aberration qu'elles aient servi des aides étrangères pour pouvoir couvrir les rémunérations. Oui. Maintenant, si le MLC est au pouvoir, quelle aurait été notre politique pour la stabilité du cadrage macroéconomique? Premier élément, il faut une politique budgétaire efficace. Qu'est-ce que ça veut dire? Des recettes importantes, une grande capacité de mobilisation des recettes, n'est-ce pas? Et il faut une politique de dépenses publiques qui privilégie la qualité de la dépense publique. Deuxième élément, il faut éviter, conformément au statut de la Banque centrale du Congo, le recours à la planche à billets pour accorder du crédit à l'État. Troisième élément, il faut diversifier la production. L'économie ne doit pas reposer sur le secteur minier. L'économie aujourd'hui doit reposer à la fois sur le secteur agricole, forestier et d'autres secteurs, l'agro-industrie y compris. Je voudrais aussi qu'au niveau des changes, que nous puissions favoriser une politique d'échange qui permette au pays de disposer véritablement des marchés financiers. La République démocratique du Congo ne dispose pas des marchés financiers. Quatrième élément, l'endettement extérieur.
Comment cela?
Mais les marchés n'existent pas. Lorsque vous avez besoin d'obtenir du crédit dans une banque de la place, vous l'obtenez où? Il n'y a pas de marché financier crédible et digne de ces noms. Dernier élément, la dette extérieure. Il y a le mécanisme de PPTE. Il suffit de pouvoir stabiliser la gestion macroéconomique. Il suffit d'avoir une gestion orthodoxe du budget de l'État pour accéder au point d'achèvement. L'accès au point d'achèvement nous permet deux éléments, s'il vous plaît.
Oui.
Le premier élément, c'est que le poids de la dette par rapport au budget va être réduit. Deuxième élément, c'est que nous aurons obtenu l'annulation de plus de 10 milliards de dollars américains.
Voilà. Maurice Cassine doit aller dire salut, ministre, s'il vous plaît.
Oui, à l'écoute.
Oui, justement, c'est par rapport aux pistes de solutions. Vous avez suivi les pistes qu'aurait appliqué le MLC pour régler la situation actuelle. Qu'est-ce que vous en dites?
Je remercie évidemment le MLC parce qu'il s'est rallié à la politique actuelle du gouvernement et à travers le chef de l'État.
Sur quel point?
Le chef de l'État, dans son interview, a accordé dernièrement aux journalistes. Il a parlé de redynamisation.
Professeur, calmez-vous, vous aurez la parole.
Agro-pastoral. L'agriculture d'ailleurs, qui va d'ailleurs, est en train déjà de recevoir les lots que le chef de l'État avait annoncé de tracteurs pour évidemment redynamiser ce secteur agricole. Et lorsque le collègue du MLC parle de ce secteur-là, le gouvernement est en train évidemment d'abandonner le secteur minier pour s'atteler au secteur agricole. Je pense que nous sommes dans la logique ici, lorsque le MLC était au pouvoir, pourrait faire ce que le chef de l'État, à travers son gouvernement, est en train de faire actuellement. Je pense que c'est au MLC et d'encourager, de féliciter le gouvernement actuel qui a la même vision si ou au cas où le MLC serait au pouvoir.
Qu'est-ce que vous pensez de la politique du gouvernement actuel qui a décidé de taxer les membres des institutions politiques que vous êtes, président de la République, des ministres et même vous autres, les parlementaires?
Ouais, évidemment, ça c'est d'abord une question de nationalisme. Même au Parlement, je pense que les collègues ont parlé vivement pour dire que nous devons payer l'impôt. Actuellement, on n'a plus que l'impôt et je pense que ça pose problème, ça ne doit pas poser problème. Nous devons être des nationalistes. Lorsque nous pensons que nous devons faire ça, c'est un devoir physique, nous devons le faire, mais peut-être seulement ça brutalise quelque part par rapport à la crise économique. Ça doit être revu dans l'application, mais et sinon nous sommes voués à ça parce que c'est un devoir civique.
Voilà. Professeur, vous voulez parler, je vous accorde une minute avant de prendre d'autres réactions des auditeurs. Allez, une minute,
ouais.
Professeur, c'est pas grave.
Oui, oui, moi je dis que pour le redressement de la situation, il n'est pas tard, nous devons nous réanimer moralement, que ceux qui détiennent un brin de pouvoir sachent que c'est un pays qui doit donner, que le budget soit élaboré, que les plans soient élaborés, qu'on se tienne au budget et au plan et qu'on ne fasse pas, qu'on ne donne pas satisfaction à des intrus qui viennent en cours d'exercice pour perturber, demander des augmentations parce qu'ils sont en telle ou telle position.
Oui.
Non. Qu'il y ait quelqu'un qui aime ce pays.
Merci
ce pays n'est pas donné.
Voilà. Professeur, on va poursuivre avec les réactions des éditeurs. J'en ai deux. Tissim Poutou, vous allez poursuivre. Il y a Elinga Swimi depuis Matadi au Bas-Congo. Si le gouvernement est incapable de stabiliser le franc congolais, qui paye aussi le fonctionnaire en dollars, pourquoi le ministre des Finances et le gouverneur de la Banque Centrale n'ont-ils pas démissionné? Question de Alex Bissiro en province orientale. Est-ce que vous pouvez poursuivre, Tissim Poutou? Bonsoir.
Bonsoir Jean-Claude. Piston Pia de Mbandaka dans la province de l'Équateur estime pour sa part que le gouvernement lui-même est à la base de cette crise, car dit-il, son budget à 70% est orienté vers le paiement de membres du gouvernement central et provinciaux. Pourquoi ne pas prévoir à chaque confection du budget un fonds de secours pour faire face aux moments de crise comme c'est le cas aujourd'hui? Réaction de Robert Baumé de Bukavu au sud Kivu. Henri Bakoumania de Mbandaka dans la province de l'Équateur estime que la crise financière mondiale ne doit pas être un alibi. Le gouvernement doit adopter une politique monétaire courageuse pour stabiliser le franc congolais.
Merci beaucoup, Christine Poutou. Je reviens vers vous avec Maurice Cassino, encore une fois, pour peut-être réagir à ces différents messages de nos auditeurs.
Oui, peut-être un message de notre auditeur qui parle de 70% de rémunération qui frappe le budget national qui est accordé aux membres du gouvernement. Évidemment, il y a le secteur aussi dans lequel le gouvernement s'intègre, c'est dans un secteur d'investissement. Parce qu'on ne doit pas dire qu'il n'y a que les membres du gouvernement qui sont payés. Il y a tout le monde qui est payé tant bien que mal. Et avec ça, on est en train de faire marcher la structure de l'État. Parce que lorsque personne n'est payé, et c'est beaucoup de grèves à la fois, et le gouvernement ne centre pas vraiment sur ses rémunérations, mais sur la politique des rémunérations nationales.
Ouais. Il faut aussi dire quand même qu'une bonne partie du budget est allouée au fonctionnement des institutions avec des cabinets importants. Hein. Je prends l'exemple, le cabinet du Premier ministre, je n'ai rien contre lui, mais c'est 400 personnes quand même. Ça coûte cher, non, au trésor public, Maurice Kassindo?
Oui, évidemment, il y a des cabinets comme celui du Premier ministre, c'est vrai, mais
il n'est pas le seul, hein.
National, il ne prend même pas 0,5%. Ces cabinets, ce sont des cabinets politiques, et ces cabinets doivent fonctionner, et cela n'empêche pas qu'elles ne puissent pas faire autre chose pour la population, notamment en leur payant les salaires. C'est question d'une certaine volonté, mais ce n'est pas seulement question de s'en approprier la cagnotte.
Jean-Lucien Boussa, c'est pourquoi le professeur Pangila Moussenga dit que vous n'aimez pas si vous, les politiciens.
Mais on comprend pas.
Non, ce n'est pas pour dire que nous n'aimons pas le pays.
Oui, j'ai posé la question à Jean-Lucien. J'ai posé la question à Jean-Lucien, vous allez répondre parce que vous avez parlé tout à l'heure. Oui,
non, je crois que le débat n'est pas passionnel. Le débat n'est pas celui de l'amour ou du désamour. Le débat, il est celui. Un débat technique pour l'avenir du pays.
Mais
je crois qu'il faut éviter les considérations sentimentales lorsqu'on est appelé qu'on espère. Moi, je voudrais dire, par rapport à l'impôt qui frappe les émoluments des personnels politiques, le problème n'est pas l'impôt, parce que tout le monde doit payer l'impôt. Mais le vrai problème, c'est la transparence. Qu'est-ce que gagne le président de la République pour qu'on nous dise que les 30% de ces émoluments représente autant.
Et je peux vous poser la question.
Le gouvernement doit venir nous en expliquer.
Mais c'est vous qui avez la
volonté. On a posé des questions qui restaient floues. Qu'est-ce que gagne le Premier ministre pour qu'on nous dise, voilà, ces 30% représentent autant. Pour les députés, c'est connu de tout le monde. Mais bizarrement, vous voyez des députés quitter l'Assemblée pour devenir ministre. Ça veut dire qu'au gouvernement, ils sont mieux payés qu'à l'Assemblée nationale. Et les vrais problèmes n'est pas l'impôt. Le vrai débat, c'est la transparence. Ça, c'est de un. Le deuxième débat, c'est la lutte contre la corruption. Comment expliquer? Quelqu'un qui devient ministre, il est piéton. 6 mois après, il a des immeubles en ville. Il a des appartements à l'étranger. Mais comment expliquer cela? La lutte contre la corruption doit être menée par un gouvernement. Troisième élément, c'est la rationalisation de la dépense publique. Comment voulez-vous, au moment de la crise financière internationale, la présidence de la République, la primature, s'octroie des budgets extravagants, extraordinaires. On l'a dénoncé. Ils n'ont pas réduit les dépenses, les traits de vie de ces deux institutions. Troisième élément, si vous pouvez.
Si vous voulez terminer, parce qu'on a
pas 2 minutes. Oui. Je termine par là. Quatrième élément, mais enfin, mais on se moque de qui? Je crois qu'ici, il est question de pouvoir reposer la politique économique, c'est sa finalité. C'est-à-dire créer la richesse pour le bien-être des citoyens, et non pour le bien-être d'une oligarchie au pouvoir.
Merci beaucoup, Maurice Kassindo. En quelques 30 secondes.
Et je pense que le gouvernement est en train de s'atteler à ça. Et le collègue vient de dire tout à l'heure, la lutte contre la corruption, c'est la chanson de chaque jour. Je pense que cette histoire de la corruption a même frappé la société nationale, parmi lesquels les membres de l'opposition. Je pense que le collègue doit aussi saisir ces dossiers parce qu'on dirait que le dossier est resté.
Il vous a déjà entendu. Professeur, on va terminer par vous en 10 secondes pour
ma conclusion à entendre. Tous les politiciens en activité et en dehors de l'activité, c'est que nous savons de quel mal nous souffrons, nous savons ce que nous pouvons faire pour le soigner, mais nous ne voulons pas le faire. Voilà la réalité.
Merci.
Il suffit de nous réanimer et nous décider.
Merci.
Tout le gouvernement est impliqué.
Merci pour cette
Le question. Parlement et le Sénat sont impliqués. Et alors, qui va nous sauver, nous autres sommes en dessous.
Voilà, c'est par votre question, professeur, que nous mettons fin à cette émission. Merci à vous, nos trois invités. Fin de cette émission Dialogue entre Congolais. Jean-Noël Mokondo était à la mise en onde, réalisation Pierrot et la Mégie, assisté de Guy Maté, Christine Poutou et Kelly Nkouté, coordination de Martin Sebujangwe, devant ce micro, Jean-Claude Toumba Kamala. Merci de nous avoir suivis.